Et dans quatre murs, des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois, la folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse paraisse se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu et sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. Bonjour. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, on va associer psychiatrie et logement social, ou logement social et psychiatrie. Voilà. Donc, je mets mes lunettes. Alors, avec plusieurs articles qui datent pour la plupart des... Enfin, pas tous, hein, mais des 2019, à cette époque-là, Paris Habitat avait mis en place un étrange système. Il s'agissait de repérer des locataires en difficulté psychique. Alors, par exemple, cet article de la revue Santé Mentale, publié le 26 avril 2019, une recherche a permis d'évaluer une grille de signaux profanes repérables par les bailleurs sociaux qui pourraient contribuer au repérage précoce de troubles psychiatriques. Depuis 2017, deux équipes de psychiatrie dédiées aux bailleurs sociaux, des équipes que l'on appelle ELIAS, interviennent dans deux arrondissements de Paris, 13 et 20e, pour prévenir les situations de crise et favoriser le maintien dans le logement des locataires. La mise en place de ce dispositif s'est accompagnée d'une recherche pour estimer l'association de signaux profanes détectés par les bailleurs et d'une part leur estimation de la détresse psychologique du locataire et d'autre part la présence de troubles psychiatriques évalués par un psychiatre. Lors de chaque signalement à l'équipe dédiée, les bailleurs ont complété une fiche standardisée recueillant les caractéristiques du locataire. La description de la situation à l'aide d'une grille de 20 signaux en relation avec le logement, le voisinage ou au lien avec le bailleur et l'estimation de la détresse psychologique du locataire sur une échelle de 0 à 10. Suite à la prise de contact avec l'équipe dédiée après évaluation médicale, 174 situations ont été incluses dans la recherche. La majorité des signalements comportaient plusieurs signaux, le plus souvent récurrents. Les impayés, 47%, les problèmes d'hygiène, 41%, le comportement incohérent, 35%, l'encombrement du logement, 29%, ou l'agressivité, 27%, étaient les signaux les plus fréquemment apportés par les bailleurs. Selon eux, les troubles olfactifs et l'incohérence du comportement étaient associés à une plus grande détresse psychologique. On remarque que les répartitions par signaux différaient selon le diagnostic psychiatrique posé a posteriori. Les difficultés de voisinage, notamment en raison de propos ou comportements incohérents, les plaintes et procédures du locataire à l'encontre du bailleur étaient plus fréquentes chez les personnes souffrant de schizophrénie, troubles schizotypiques ou délirants. L'encombrement du logement était à l'inverse plus fréquemment rapporté chez les locataires avec troubles de l'humeur. Cette étude met donc en évidence des associations spécifiques entre signaux profanes repérés par les bailleurs sociaux et certains troubles psychiatriques, donc signaux d'initiés pour faire la balance avec les signaux profanes. Je ferme la parenthèse. Elle valide, cette étude, l'intérêt de la grille pour le repérage précoce des troubles et l'adressage vers des services spécialisés pour à terme favoriser le maintien dans le logement. Cette grille représente un outil précieux de liaison entre les acteurs. Là, on a aussi des mots, un mot assez flou qui est le mot incohérent. Comment définissent-ils l'incohérence? Alors, il y a un autre... article sur le site parishabitat.fr. Santé mentale, Paris Habitat accompagne les locataires, donc Paris Habitat qui est partie prenante dans cette initiative. Et là, ça date du 15 décembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an. Investi pour l'accompagnement social de ses locataires, notamment les plus fragiles, Paris Habitat a également mis en place, aux côtés d'équipes spécialisées, un accompagnement vers des soins psychiques adaptés pour des situations de détresse particulière. C'est par exemple le cas avec les équipes Elias. Monsieur, vous êtes là? Sans réponse, le docteur Pedro Valente, psychiatre, et Marion Landau, infirmière, font face à la porte close. C'est celle de la voisine qui finit par s'ouvrir. Il ne sort que très peu, sauf parfois pour venir sonner chez nous ou nous demander quelques services. Je pense pourtant qu'il est là, explique-t-elle, très impliquée. Il aura suffi qu'elle referme sa porte pour que son voisin ouvre finalement la sienne. Pouvons-nous entrer pour discuter? S'enquiert le médecin. L'homme, chétif, a été signalé par Paris Habitat aux équipes de liaison intersectorielle d'accompagnement entre Habitat et Soins, ELIAS, une unité de soins mobiles. Créée en 2017 et cofinancée par la ville de Paris, ces équipes interviennent dans les 13e, 19e et 20e arrondissements, à la demande de Paris Habitat, auprès de locataires signalés comme potentiellement en situation psychosociale dégradée. Engagé pour accompagner individuellement les locataires les plus fragiles, Paris Habitat, par l'intermédiaire de ses équipes sociales et plus particulièrement de ses conseillères sociales, cherche à intervenir sur les maux qui peuvent survenir à la suite de difficultés sociales. Notre objectif est toujours qu'ils puissent conserver leur toit et de lutter contre la précarisation et l'isolement social, précise Frédéric Winter, directeur des politiques sociales de Paris Habitat. Cette volonté conduit donc à trouver les solutions les plus adaptées à chacune des situations et à solliciter l'ensemble des partenaires de l'équipe de l'établissement. Les équipes Elias sont de cela pour des cas de détresse très spécifiques. Les situations rencontrées, accentuées par les conséquences de la crise sanitaire, concernent principalement des habitants dont la précarité a engendré une souffrance psychologique, mais aussi des situations plus aiguës. Lorsque la souffrance psychologique préexiste et entraîne une forme d'abandon de soi et donc des difficultés sociales, avance le docteur Valente. Fixée au sein de l'association mentale du 13e arrondissement, l'équipe du docteur Valente est composée d'un psychiatre et d'une infirmière, mais aussi d'une assistante sociale. Notre tâche consiste à entrer en contact avec ces personnes. C'est parfois difficile parce qu'elles ne sont pas forcément en demande, voire parce qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'elles sont en grande souffrance ou n'arrivent pas à l'exprimer. Docteur Pedro Valente, psychiatre. Donc voilà, c'est pour leur bien. Et quelques précisions supplémentaires. Ce dispositif est le contraire d'un cabinet médical. Là, les équipes proposent leur aide et vont vers les patients. Il nous faut parfois y aller et revenir et être patient pour entrer en contact, avant peut-être de parvenir à les faire venir à notre cabinet et qu'ils soient dans une démarche de soins. Et rien ne peut se faire sans leur consentement, continue-t-il. Paris Habitat, conscient des situations de fragilité qui peuvent actuellement s'accentuer dans le contexte économique et social, continue à développer ce type de dispositif. Ainsi, une nouvelle convention a été signée en novembre 2021 pour intégrer le 18e arrondissement au périmètre des équipes Elias. L'établissement a également passé un nouveau marché avec les œuvres Falleret, structure spécialisée dans l'aide aux personnes en souffrance psychologique. Celle-ci intervient sur le reste du patrimoine cité dans les arrondissements jusque-là non couverts. Alors, c'est un article de Paris Habitat et donc qui conclut en disant « Pour toute information complémentaire, rapprochez-vous de votre conseillère sociale ou de votre agence ». Alors, Falleret, il me semble que c'était un psychiatre aliéniste, si je ne m'abuse. Voilà, donc ça, c'était un article de parishabitat.fr. Et avec, par exemple, dans ce même média, une présentation de l'Elias.
C'est une équipe issue de la psychiatrie publique.
J'ai vu dans le dossier que l'appartement était très encombré. Du coup, il faut qu'on puisse voir si on peut y avoir accès.
J'ai également noté dans ce dossier que le locataire ne sortait plus, qu'il ne relevait plus son courrier.
L'équipe est constituée de peu de professionnels puisqu'il y a un soignant, donc un infirmier ou une infirmière, un travailleur social, une assistante sociale. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est formation, partage d'expérience avec les professionnels des bailleurs sociaux.
À l'époque, quand on voyait des personnes en difficulté, qui étaient agressives, tout ça, on ne savait pas. On pensait qu'ils se sont levés avec le mauvais pied le matin, tout ça.
On s'est rendu compte qu'il manquait un maillon essentiel qui était d'aller vers nos locataires.
Ce projet d'équipe dédiée à la psychiatrie est très important pour Paris parce que c'est vraiment une première du genre qui doit permettre le fait de sortir de l'isolement les personnes en souffrance psychique dans les logements sociaux.
Grâce à ces outils et cette sensibilisation qu'on a reçue par l'équipe dédiée, on arrive à repérer les personnes qui sont vulnérables, qui sont malades.
Les objectifs peuvent se résumer en trois. Un, c'est à partir de signalements qui rencontrent le plus souvent d'une souffrance psychosociale, c'est d'amener ces locataires à un accès aux soins, d'apporter un appui, un accompagnement à la fois médical, psychologique et social. Et troisièmement, c'est de maintenir les locataires dans leur logement. Voilà.
Comment tu vas, Christian ?
La forme ? Merci, toi.
Oui, ça va.
Ok, bah, je viens de voir pour le locataire dont tu m'as parlé ce matin.
Oui, exactement, tout à fait.
Ouais. Mais bon, sinon, on regarde les informations que tu m'as communiquées, le fait que ce monsieur ne réagisse pas au courrier. Et en fonction de ta grille d'évaluation, oui. on va signaler tout de suite la situation à l'équipe dédiée.
Moi, je ne cherche pas les conflits, mais j'en ai eu beaucoup.
Plus on va être en amont de situations de crise, on va être plus efficace dans l'intervention, qu'elle soit à la fois sociale, psychosociale, psychologique ou psychiatrique ou médicale, afin de prévenir les situations qui se dégradent.
Et aujourd'hui, on en est à plus de 200 situations suivies, accompagnées ou en cours d'accompagnement.
Nous avons donc décidé de renouveler ce partenariat et de l'étendre même. En tout cas, l'AORIF fera tout pour promouvoir ce dispositif.
Alors, le site Neptune, qui est un site qui, disons, qui soutient et défend les usagers en psychiatrie, les usagers et usagères, a réalisé une enquête à ce propos. Intitulé « Fichage psychiatrique par les bailleurs sociaux à Paris, l'enquête ». C'est un article du 6 juin 2019. Dans le cadre de la mission Elias, lancée en 2017, les secteurs psychiatriques de Maison-Blanche et de l'ASM 13 ont obtenu des bailleurs sociaux que ceux-ci leur signalent les locataires à signaux faibles au moyen d'une fiche standardisée. Alors, déjà, il y a deux notes, c'est signaux faibles, donc par opposition aux situations de crise aiguë, sont, selon les psychiatres, les impayés, les problèmes d'hygiène, le comportement incohérent, l'encombrement du logement, l'agressivité, les plaintes et procédures à l'encontre du bailleur. Voilà. Alors, ces signalements par le gardien d'immeuble déclenchent une visite par une équipe psychosociale incitant les personnes à recourir à des soins. Ceci déclenche de fait un suivi. Les données recueillies sont également croisées avec les diagnostics qui sont portés. Les hôpitaux en déduisent des liens entre ces signaux faibles profanes et des troubles sévères comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Les responsables de ce dispositif, soutenu par la mairie de Paris, par le GHU et par la plupart des bailleurs, en tire des conclusions médicales sur le thème du repérage précoce de troubles graves et milite pour une généralisation du dispositif en parlant de projet à vocation durable. Nous avons été surpris par ce dispositif peu médiatisé et découvert incidemment dans un petit article de Santé mentale d'avril 2019. Inquiet des dérives que cette nouvelle initiative peut induire sur le libre choix des soins par les personnes et le respect de leur vie privée, nous avons alors posé des questions précises aux deux psychiatres promoteurs d'Elias. Nous nous sommes également rendus sur le terrain pour recueillir l'opinion des locataires qui ne semblent pas avoir été faits auparavant. Alors, la présentation du dispositif par ses promoteurs. L'article mis en ligne par le GHU à Paris affirme qu'en 2012, c'est le comité local de santé mentale du 20e arrondissement ainsi que l'AORIF qui souhaitent améliorer les conditions d'accès et de maintien dans le logement social des personnes en difficulté psychosociale, auraient à cette fin contacté les services de psychiatrie de l'hôpital Maison-Blanche. Alors, l'AORIF, c'est l'Union sociale pour l'habitat d'Île-de-France. C'est une sorte de syndicat professionnel des bailleurs sociaux publics et privés. Voilà. Cette louable intention s'est traduite en 2017 par une convention entre la mairie de Paris, la plupart des bailleurs sociaux, l'EPS Maison Blanche, hôpital psychiatrique situé Paris 20e, puis l'ASM 13, psychiatrie du 13e. La création des équipes Elias s'est alors faite immédiatement. Le fonctionnement des équipes Elias est présenté en ce début d'année 2019. Un extrait. Oui, alors c'est bien, c'est la vidéo qu'on vient d'entendre là en fait. C'est une vidéo réalisée par le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Les informations recueillies à la fois par les signalements standardisés sur le terrain et lorsque les personnes finissent par être suivies en psychiatrie ont fait l'objet d'une étude visant à établir un lien entre le type de signalement, impayé, désordre, etc., et le diagnostic psychiatrique qui a été fait a posteriori. 174 locataires ont été inclus dans l'étude. Selon les psychiatres, l'encombrement du logement serait plus lié au trouble bipolaire. Les plaintes et procédures à l'encontre du bailleur seraient liées à une schizophrénie, un trouble délirant ou une personnalité schizotypique. Enfin, il signale que 40% des personnes signalées ont fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique et que 50% des personnes ont fait l'objet d'une prise en charge sociale. Questions posées au psychiatre. Nous avons posé les questions ci-dessous au psychiatre à l'origine de ce système et de cette étude. Alors, bonjour, nous sommes des associations d'usagers et proches d'usagers de la psychiatrie présentes au niveau national. Nos adhérents nous ont interpellés sur le dispositif Elias que vous animez à Paris 20e et 13e suite à la parution de l'article « Repérer les locataires en difficulté psychique » publié dans le numéro du 26 avril dernier de Santé mentale et dans d'autres médias et du film de présentation de l'Elias. Pourriez-vous avoir donc l'amabilité de répondre du mieux possible aux quelques questions suivantes, de manière très concrète, en évitant les considérations générales, sans les exclure bien sûr sous forme de compléments. N'hésitez pas à joindre des documents étayant vos réponses. Par avance, nous vous remercions de vos réponses qui seront publiées sur nos sites internet. 1. Quel constat sur les locataires de logements sociaux a amené votre décision de mener cette initiative ? 2. Pourriez-vous nous transmettre le texte intégral de l'étude dont il est question dans l'article de Santé mentale ? 3. Pourriez-vous à minima nous transmettre la fiche standardisée que les bailleurs sociaux transmettent à vos équipes ou à votre service dans le cadre de cette étude et de ces interventions ? 4. Comment le bailleur social d'une part et le gardien d'immeuble d'autre part se sont-ils informés des suites données aux situations qu'ils vous transmettent et qu'ils jugent donc préoccupantes ? 5. Quelle est la procédure ou la démarche adoptée lorsqu'un ou une locataire signalé pour des faits qui vous paraissent inquiétants ne souhaite pas rencontrer l'équipe Elias ? 6. Y a-t-il eu pour certaines de ces personnes ne consentant pas au dispositif des procédures de soins sous contrainte pour péril imminent ? Combien, en excluant les personnes qui par ailleurs ont fait l'objet de procédures d'ASPDRE ou ASPDT ? 7. Les personnes non consentantes à participer à un entretien et n'ayant pas été par la suite objet d'une mesure de soins sans consentement ont-elles été exclues de l'étude ? 8. Les personnes consentant à un entretien mais non consentantes aux soins qui leur sont proposés et n'ayant pas été par la suite objet d'une mesure de soins sans consentement ont-elles été exclues de l'étude ? 9. Les équipes ou le service hospitalier, les équipes ou le service hospitalier en charge ont-ils au moins une fois pris contact avec les proches des personnes signalées par le bailleur et non consentantes dans le but de sensibiliser ces proches à la nécessité d'entreprendre des soins psychiatriques avec ou sans consentement ? Et enfin 10. L'article conclut en ces termes. Cette étude est la première menée dans le champ du logement social en France. Elle met en évidence des associations spécifiques entre signaux faibles repérés par les bailleurs et certains troubles psychiatriques. Ces signaux pourraient contribuer au repérage précoce des troubles et à l'adressage vers les services spécialisés, participant à terme au maintien dans le logement des locataires. La grille proposée constituerait un outil précieux de liaison entre les bailleurs sociaux et les services de psychiatrie. Fin de citation. Conclusion suppose que vous avez dressé un bilan quantitatif et qualitatif à un an ou toute autre durée du dispositif sur l'évolution socio-professionnelle des personnes repérées par rapport à la période qui précédait le dispositif. Est-ce le cas ? Par exemple, en nombre de réhabilitations professionnelles réussies grâce au dispositif, en nombre d'événements indésirables, suicides, violences sur des personnes, perte d'emploi, ou désirables, maintien dans le logement, réinsertion professionnelle hors ESAT, etc. Est-ce le cas ? Pouvez-vous nous transmettre ces éléments chiffrés ? Ah oui, puis il y a une 11e question. Question d'actualité. Si un bailleur vous signale une personne qu'il voit ou suspecte de se livrer à des activités de trouble à l'ordre public, lui conseillez-vous de s'adresser de préférence à la police ou faites-vous une visite à cette personne pour mieux évaluer la présence de troubles psychiques éventuels ? Et dans ce cas, transmettez-vous ces informations vous-même à la police ? Merci beaucoup pour vos réponses aussi complètes que possible pour l'association Neptune. Voilà. Et pour le groupe Information Asile qui est aussi partie prenante dans cette enquête. Les réponses des psychiatres. Nous avons reçu la réponse ci-dessous. Donc, de Émilie Malbec à destination de Neptune et du groupe Information Asile le 15 mai 2019. Bonjour, vous avez sollicité le docteur Catherine Boiteux dans le cadre de la recherche sur la grille de signaux faibles observables dans le cadre du logement social mené par la cellule d'épidémiologie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. En tant que chargé de mission sur les équipes Elias, je reviens vers vous pour affiner votre demande. Pour votre information, les résultats partiels que vous avez pu consulter dans la revue Santé Mentale ne sont pas encore publiés officiellement. Un article paraîtra prochainement dans une revue scientifique. Ainsi, si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, pourriez-vous nous informer de vos besoins ? Nous pourrions, le cas échéant, vous transmettre la grille à titre confidentiel, protégée par la propriété intellectuelle de ses auteurs, ou vous tenir informé de la sortie de l'article scientifique. N'hésitez pas à revenir vers moi pour échanger sur la mise en place et le fonctionnement de ces équipes Elias, projet expérimental répondant aux besoins identifiés conjointement par la psychiatrie, les bailleurs sociaux et la ville de Paris, mis en place à Paris depuis 2017. Cordialement, Émilie Malbec, chargée de mission des équipes Elias, Paris 13e et 20e. Nous avons donc réitéré nos questions. Bonjour. Nous vous remercions de votre réponse et prenons note que la fiche standardisée ou grille est protégée par les droits d'auteur et que l'étude pourrait être consultée ultérieurement dans une revue scientifique. Ayant également l'intention de publier bientôt un article sur la mission des équipes Elias et soucieux de donner la parole à toutes les parties prenantes, nous vous remercions donc de bien vouloir nous donner vos meilleures réponses aux questions restant posées. Voici les questions restant posées. Suivent les 11 questions posées initialement. Merci beaucoup pour vos réponses, aussi complètes que possible. Au jour de la parution de cet article, soit un mois et demi après l'envoi initial des questions, nous n'avons toujours pas reçu de réponse. À noter que le 28 mai, le docteur Catherine Boiteux nous a envoyé mot pour mot la même réponse que celle reçue de Madame Malbec le 15 mai, puis s'est excusée pour ce croisement de mails. La réponse a donc bien été élaborée en commun. Interview des locataires. Comme la présentation du projet et ses premières conclusions ne font pas état de l'opinion des premiers intéressés, les locataires, nous avons souhaité remédier à cette lacune. Nous nous sommes donc transportés sur place à Paris 13e et Paris 20e et avons interviewé une dizaine de locataires choisis au hasard au pied de différents immeubles de logements sociaux. Les mêmes questions ont été posées à toutes les personnes rencontrées. Bonjour, nous sommes membres d'une association et nous faisons un petit reportage sur les signalements de locataires aux hôpitaux psychiatriques par les gardiens d'immeubles. Accepteriez-vous de répondre à quatre petites questions ? 1. Êtes-vous au courant que le gardien de votre immeuble peut signaler à l'hôpital psychiatrique toute personne dont le comportement lui semble bizarre ? Appartement en désordre, bruit, conflit ? 2. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? 3. Vous accepteriez que du personnel médical vienne vous voir à la demande du gardien suite à ce type de signalement ? 4. Si vous vous sentez très mal en crise, prendriez-vous l'initiative d'appeler quelqu'un de votre famille, le SAMU, les urgences psychiatriques ? Si un grave problème vous arrive et vous perturbez fortement, iriez-vous consulter un psy ? Autre ? Alors, ces questions donc ont été posées à différentes personnes... parmi les locataires, et on peut en écouter, sur toutes celles qui ont été faites, on n'en écoutera que deux. Voilà.
Si le gardien trouve que vous êtes un peu bizarre, il peut appeler l'hôpital psychiatrique.
Oui.
Vous êtes au courant ?
Non.
Voilà. Est-ce qu'on peut enregistrer maintenant votre voix, sans prendre de...
Oui, c'est bon, il n'y a pas trop longtemps. Mmh. Sans filmer. Hein.
Sans filmer. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes au courant que le gardien de votre immeuble peut signaler à l'hôpital psychiatrique si vous avez un comportement un peu bizarre ?
Non.
Vous n'êtes pas au courant ?
Oh, non, on n'est pas au courant.
Que pensez-vous ? Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit le gardien qui...
C'est pas normal. Non, mais il devait appeler un pompier pour aider.
Est-ce que vous accepteriez que du personnel médical vienne vous voir à la demande du gardien suite à son signalement ? Est-ce que...
Normalement. Parce que s'il y a un gardien, il devait d'abord prévenir pour les gardiens.
Est-ce que si vous vous sentez très mal en crise, est-ce que est-ce que vous appelleriez plutôt quelqu'un de votre famille ou le SAMU ou les urgences psychiatriques ?
SAMU. SAMU.
Le SAMU.
Oui, SAMU, voilà. Je l'appellerai.
Mais écoutez, vous avez quelque chose à me demander ou...
Non, merci, madame.
Eh ben, merci pour
je vous en prie. Je vous souhaite bonne journée. Merci, au revoir.
Merci bien.
Je vous en prie, au revoir.
Alors nous, nous sommes membres d'une association et nous faisons un petit reportage sur les signalements de locataires aux hôpitaux psychiatriques par les gardiens d'immeubles. Êtes-vous au courant que, ici, dans ce bloc d'immeubles, votre gardien peut signaler à l'hôpital psychiatrique toute personne dont le comportement lui semblerait bizarre. Par exemple, des cris ou du son un peu fort. Peu importe, il n'y a pas de spécificité à ce qu'on semblerait être appelé bizarre. Êtes-vous au courant de cela, monsieur ?
Non, moi je ne suis pas au courant de tout ça, mais s'il y a quelque chose, si le gardien il peut le dénoncer, si c'est vraiment... Ça serait peut-être dangereux pour les locataires ou pour tout l'environnement, quoi. Ça, moi, ça me dérange pas. Il peut le signaler. Ou même, moi, si je vois quelque chose qui peut porter atteinte à tous les habitants, je n'hésiterai pas à le dénoncer.
Voilà. Et là, en fait, c'est signaler directement... aux hôpitaux psychiatriques, hein. C'est pas la police ou...
Ça m'étonnerait parce que j'aurais peut-être pas vraiment l'occasion ni le déplacement, tout ça, j'utilise peut-être pas. Mais peut-être les autorités telles que la police ou le gardien, oui.
Ok, donc est-ce que vous trouvez ça normal de faire appel à la psychiatrie dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le voisinage.
Peut-être, oui. Peut-être, oui. Bon, je trouve que si on appelle le psychiatre, bon, si ça peut résoudre le problème beaucoup mieux que d'autres, oui.
Et vous, vous accepteriez, à titre personnel, que du personnel médical vienne vous voir à la demande du gardien suite à ce type de signalement vous concernant ?
Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout.
Voilà,
si je fais quelque chose qui peut déranger les locataires ou n'importe qui, que ce soit le gardien ou quelqu'un d'autre, moi, ça ne me dérange pas.
Bah là, il y a marqué « comportement bizarre ».
Comportement bizarre, c'est-à-dire oui.
Toute personne dont le comportement semblerait bizarre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a voie de fait.
Je ne peux pas vraiment juger, mais pas pour un oui, pour un non, aller dénoncer quelqu'un. Non, il faut en être sûr.
Oui. Et si vous vous sentez vous très mal, un jour en crise, prendriez-vous l'initiative d'appeler quelqu'un de votre famille, un ami, le SAMU, les urgences psychiatriques ? Quel serait votre choix si un grave problème vous arrivait, vous perturbait fortement ? Et iriez-vous consulter un psy ?
Oui, moi je peux, que ce soit un psy ou appeler par exemple les urgences ou les pompiers ou n'importe qui, quoi, qui peuvent résoudre le problème.
Oui. Et sinon, bah, ça à titre personnel, je vous demande, vous connaissez bien votre gardien
Je le connais bien, oui et non, on ne le voit pas tellement. On avait une gardienne qui était vraiment présente dans tous les domaines, ça va, mais ça fait un moment qu'elle n'y est plus. On a une gardienne qui n'est pas vraiment tout le temps disponible, on la voit rarement. Et puis, on ne peut pas dire si elle est bonne ou elle est mauvaise, ça je ne peux pas le dire.
Oui. Parce que moi je peux en parler, enfin... On connaît peu son gardien et le gardien vous connaît peu en général.
Oui,
voilà.
Je vous dis, avant, je le connais bien.
Oui, avant. Merci.
Attendez, j'ai une question. Est-ce que vous savez, c'est sur le panneau d'affichage, il y a cette clause maintenant qui permet au gardien d'appeler un psychiatre en cas de problème.
C'est quel panneau ?
Les panneaux qui sont dans l'entrée d'affichage, là-bas. Vous savez où il y a les...
Oui.
Il peut appeler... Est-ce qu'il... Vous avez vu un papier où il peut appeler les urgences psychiatriques ?
Je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire.
Merci, monsieur.
Voilà.
Merci beaucoup.
Allez,
bonne journée.
Voilà, c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors, on est dans le cadre de l'enquête Neptune. Donc, c'était... le 6 juin 2019, en juin 2019, et donc dans cette enquête, une petite analyse des réponses de ces personnes locataires des bailleurs sociaux. Nos questions auraient dû être plus précises concernant les signaux faibles et auraient dû bien faire la distinction entre, d'une part, un signalement d'urgence suite à une crise aiguë et, d'autre part, un signalement systématique suite à des impayés, des plaintes et procédures à l'encontre du bailleur, etc. En effet, les locataires n'ont pas imaginé une seule seconde que l'on pouvait faire un signalement psychiatrique pour des impayés, du désordre dans le logement, etc., et l'on entend bien dans les réponses que leur réaction concerne plutôt le fait d'appeler les pompiers et ou d'avoir recours à la psychiatrie en cas d'incident grave. En synthèse, quelques tendances fortes se dégagent des interviews. Il est ressenti comme normal par tous les locataires interviewés que des incidents graves mettant en jeu la sécurité physique des personnes ou intolérables comme des cris continus fassent l'objet d'un appel aux urgences, pompiers, police, SAMU, etc. par le gardien ou par les voisins. Un seul locataire trouve normal le signalement d'un comportement bizarre directement par le gardien à l'hôpital psychiatrique ainsi que la visite d'un psy, y compris dans son cas personnel. Le fait de recevoir la visite d'une équipe psychiatrique est considéré comme normal, mais uniquement dans ce contexte de crise aiguë, sauf pour une étudiante. Lorsque l'on pose la question pour elle-même, les personnes estiment qu'en cas de stress important ou de problème psychique, elles s'adressent dans l'ordre à un proche, grande majorité des réponses, à un psychologue, une réponse, à un psychiatre, une réponse, en cas d'urgence, à un service d'urgence, implicite dans toutes les réponses. L'avis d'un gardien d'immeuble et le rôle des bailleurs. Nous avons incidemment recueilli l'avis d'un gardien d'immeuble. Celui-ci s'est déclaré vivement opposé à ce système, autant pour des questions de temps, il garde 3 immeubles, que de principe. Il s'est estimé infondé à effectuer des signalements à la psychiatrie au sujet des personnes qu'il estime ne pas connaître suffisamment. Par ailleurs, les impayés font partie de la liste des signaux faibles et sont fréquemment transmis aux psychiatres, puisque ceux-ci ont dénombré 47% d'impayés parmi les signalements. Or, des professionnels du logement social de Paris nous ont certifié que les gardiens ne sont jamais informés des impayés locatifs. Ceci montre que les signalements ne sont pas seulement le fait de gardiens d'immeubles, mais proviennent des directions administratives des sociétés de bailleurs, incitées par leur syndicat professionnel, l'AORIF. Les signalements ne se résument donc pas à une simple fiche émise à un instant donné par le gardien, mais font intervenir, ne serait-ce que pour les impayés, le système d'information central des bailleurs. Notre avis. Nous ne contestons pas le fait que, parmi les bénéficiaires de logements sociaux, la prévalence de souffrances psychiques soit plus importante que dans le reste de la population, ni qu'une aide sociale et psychologique soit infondée pour ces personnes. Nous ne considérerons pas que ce soit infondé. Par contre, nous contestons la méthode. Le signalement par le gardien d'immeuble ou par le bailleur directement à la psychiatrie est pour des motifs aussi ténus et hors champ de la psychiatrie comme l'encombrement, les impayés, les plaintes, etc. marque une claire ingérence dans la vie privée des personnes qui ne sont pas demandeurs de soins psychiatriques et ne présentent pas non plus un péril imminent pour eux-mêmes ni pour autrui. 40% des locataires ainsi signalés pour des faits anodins d'un point de vue médical se retrouvent suivis en psychiatrie. Les auteurs de l'étude ne nous ont pas répondu sur la question du consentement aux soins psychiatriques de ces personnes, ce qui nous porte à croire qu'une partie non négligeable de ces personnes ont fait l'objet de soins sans consentement. Sous couvert de bonnes intentions, on psychiatrise parfois de force des personnes qui n'ont rien demandé et qui ne présentent aucunement un danger imminent. Comme si le dispositif légal d'internement à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État et qui tourne à plein régime ne suffisait pas à augmenter encore le nombre de personnes qui subissent, au nom d'un principe de précaution surestimé, un traitement psychiatrique, c'est-à-dire un diagnostic stigmatisant et des psychotropes invalidants, ce qui, de ce fait, voit leur situation se dégrader. Passer d'une situation précaire ou modeste à une situation de malade assisté, perdant presque tout espoir d'une meilleure intégration professionnelle et sociale. De plus, le dispositif Elias comporte un risque très important de divulgation du secret médical. Auprès des services sociaux, depuis la loi de modernisation de la santé publique de janvier 2016, la communication de données médicales aux services sociaux dans l'intérêt des personnes est autorisée. En l'occurrence, on apprend que l'examen psychiatrique par les équipes Elias aboutit à un signalement aux services sociaux dans 66% des cas. Et divulgation du secret médical auprès des bailleurs. Il est illusoire de croire qu'une collaboration aussi étroite puisse les tenir éloignés d'informations médicales et qu'ils ne soient pas plus ou moins informés des suites données par la psychiatrie pour les personnes qu'ils lui signalent. A minima, le risque est très important. Nos propositions. Comment aider des personnes en difficulté sociale? Comment faire de la prévention pour les quelques personnes dont les difficultés psychiques évolueront en troubles graves, tout en respectant leur droit de choisir ou non tel ou tel type de soins, et tout en garantissant le secret des données médicales et l'absence de fichage croisé entre les données des bailleurs, celles des services sociaux et celles des médecins. D'abord, en cessant de confondre dépistage et prévention. Le dépistage est utile en médecine uniquement lorsque les symptômes dépistés sont annonciateurs, avec certitude, d'une maladie grave, et lorsque l'on peut en interrompre à temps l'évolution. C'est le cas pour les cancers, le diabète, etc. Ce n'est pas le cas pour les troubles psychiatriques. Des associations, par exemple l'émission de plaintes répétées à l'encontre du bailleur, des impayés, etc., ne sont pas des signes avant-coureurs certains de troubles paranoïaques. S'ils le sont, c'est seulement pour une très petite part. Il n'y a pas de lien. Quand bien même il y en aurait, le traitement précoce n'existe pas, du moins pas dans le domaine psychiatrique. Aucun traitement médicamenteux psychiatrique n'est indiqué ni autorisé à titre préventif du fait de leur rapport bénéfice-risque très défavorable dans ces situations non avérées et à cause de leurs effets secondaires invalidants. Il n'y a donc aucun motif de pratiquer le dépistage en psychiatrie. Cette opinion est également celle, entre autres, du professeur Hélène Verdoux, l'une des psychiatres épidémiologistes les plus en vue en France, exerçant également comme chef de pôle au CHU Charles Perrins de Bordeaux. Ensuite, en reconsidérant les méthodes de prévention, les interventions psychiatriques de prévention réelles et efficaces existent, mais elles ne sont pas reconnues en France. Elles consistent à intervenir très rapidement à l'aide d'un numéro d'appel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et uniquement en cas de crise psychotique aiguë, sous la forme d'un dialogue, d'une aide par la parole et en groupe, en respectant un certain nombre de principes forts. Cette méthode s'appelle Open Dialogue. Elle a permis à toute une région de Finlande de conjurer la schizophrénie en empêchant les premiers épisodes psychotiques de se cristalliser en schizophrénie. Il s'agit bien de prévention, car l'intervention prévient l'évolution d'une psychose en schizophrénie. Il ne s'agit pas de dépistage, car les indices ou signaux faibles ne sont pas des motifs d'intervention pour Open Dialogue. Nous appelons les responsables des équipes Elias et au-delà toutes les équipes de secteur intervenant en France et toutes les autorités médicales à se pencher enfin sur l'approche Open Dialogue. Seule cette approche peut, à notre connaissance et en se basant sur des résultats statistiques, enrayer l'augmentation préoccupante de la prévalence des troubles mentaux en France et dans le reste de l'Occident. La tendance consistant à faire du dépistage actif en recourant aux bailleurs, mais pourquoi pas, si l'on suit cette logique, aux employeurs, aux enseignants, à la CPAM, aux buralistes et à l'épicier, n'a aucun avenir et n'apporte rien de bon. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Alors, une citation de Hélène Verdoux, professeure de psychiatrie et chef de pôle au CHU Charles Perrins à Bordeaux, dans son livre « Les antipsychotiques », écrit. L'absence de démonstration d'un réel bénéfice à long terme des programmes de dépistage va, espérons-le, contribuer à modérer l'enthousiasme et le prosélytisme actif qui a prévalu pendant quelques années concernant la mise en place de ces programmes et donc l'extension des indications des antipsychotiques aux sujets à haut risque. Appel à témoins et droit de réponse. Malgré tous nos efforts, des erreurs peuvent encore subsister dans cet article. Nous appelons donc toute personne impliquée à un titre ou à un autre à exercer son droit de réponse ou à apporter des éléments complémentaires à nos analyses en utilisant le bouton « Répondre ci-dessous ». Alors bon, là on est sur le site de Neptune. Donc c'est un appel, éventuellement un appel à témoignage. L'association se réserve le droit de ne pas publier une réponse contrevenant au texte en vigueur ou d'anonymiser le nom de personne, le droit d'anonymiser le nom de personne non publique que ces réponses contiendraient. Voilà, c'est donc le site Neptune. Je ne peux pas préciser exactement l'URL dans sa totalité, mais voilà, avec un bon moteur de recherche, si vous avez internet, ça devrait fonctionner. Allez, on va faire une petite pause et ensuite une annonce ou deux. Thank you. Radio Libertaire 89.4, c'est toujours émission L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Alors voici une annonce. Pardon. Des rencontres autour du social, de la psychiatrie, du soin et de la résistance en institution. Alors, il y a une petite phrase. Antisocial, tu perds ton sang-froid. On imagine que c'est le refrain d'une chanson de Trust, du groupe Trust dans les années 80. Ça fait pas mal d'années qu'on voit nos potes éduques déserter le secteur. Pas mal d'années que les lois sécuritaires se multiplient dans la psychiatrie. Pas mal d'années que l'on doit attendre des mois pour avoir un rendez-vous avec un ou une psychiatre en CMP. Ça fait aussi longtemps que l'on sait que 40% des SDF de moins de 25 ans sortent de placement de l'ASE. Et longtemps que l'on sent que tout le secteur du soin et du social tient par des bouts de ficelle et des personnes qui y laissent leur peau. Et pourtant, certaines bricolent dans les marges, poussent les murs en même temps qu'elles les tiennent, réinventent dans leur coin ou au grand jour, résistent et tiennent le coup. Parfois en institution, en créant des possibles là où tout paraît verrouillé, en tenant la barre envers et contre la hiérarchie et la bureaucratie. Parfois, entre nous, directement concernés par les situations, en s'épaulant les uns une les autres, pour s'entraider et se réapproprier ce qui fait soin pour nous, parfois en créant de nouveaux modèles d'accueil, de lieux de soins, à la croisée du salariat, du choix de vie ou de l'habitat, parfois en collectif, parfois seul, parfois en couple. C'est pour toutes ceux-là et celles-là que ces rencontres antisociales, entre guillemets, sont organisées, pour créer des ponts entre toutes ces façons de résister, pour que l'on prenne le temps de discuter, d'apprendre à se connaître, pour créer des liens entre le formel et l'informel, entre le cadre et la marge, entre l'institution et l'autogestion, pour essayer de répondre à ces belles ambitions. On vous bricole un week-end de rencontres le 21, 22 et 23 avril dans le Tarn, au Compaire, entre Rabastens et Gaillac. Un week-end plein d'ateliers, de discussions informelles, de spectacles et de musique. Le programme arrive bientôt. Alors, pour des questions d'Orca, c'est top si vous pouvez vous préinscrire sur ce mail anti-social.tpts@proton.me. Je répète, anti-social.tpts@proton.me. Et si vous avez des questions, on peut aussi essayer d'y répondre sur ce mail. Donc c'est pour le 21, 22 et 23 avril. Donc entre l'institution et l'autogestion. Et là, on a vraiment effectivement une zone où des perspectives peuvent se tracer. Par exemple, pour créer des groupes d'autosupport. L'entraide par les pairs et les réseaux sociaux constitue des soutiens importants à l'autogestion de la maladie et de la vie avec la maladie. Le recours à des pairs aidants dans les services de santé mentale est particulièrement utile pour soutenir l'autogestion de la maladie et ses conséquences sur la vie sociale. En proposant... Alors là, je suis en train... J'ai commencé à vous citer, à vous lire un extrait de l'HKAM, rapport santé mentale. Alors, je suis à la page 57, c'est-à-dire que C'est une brochure intitulée « Approche population centrée et partenariale en santé mentale, l'implication et le partenariat avec les usagers et usagères et la population dans la conception et le fonctionnement du système de santé comme levier de transformation de notre système de santé mentale ». Alors évidemment, c'est très, très institutionnel. Magali Coldéfi, avec la participation de Philippe Maugiron, rapport réalisé pour le secrétariat général du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, HCAAM, on va dire HCAM. mars 2022. Alors donc cet extrait que je vous lis, c'est une série de paroles, de témoignages de personnes concernées. C'est-à-dire cette brochure contient pas mal de témoignages de personnes concernées qui parlent de ces problématiques entre institutions et autogestion. Alors, je continue à lire cet extrait. Il est important également que les professionnels de santé adressent les personnes vers ces groupes d'auto-support, groupes d'échange de paroles proposés au sein des groupes d'entraide mutuelle, GEM, ou par les associations d'usagers en santé mentale, ou d'autres collectifs tels que le réseau sur l'entente de voix, les centres de formation au rétablissement et autres initiatives gérées par des usagers pour les usagers. Les acteurs informels, associatifs, souvent bénévoles, jouent un rôle majeur dans le soutien des personnes vivant avec un trouble psychique. Alors, des témoignages de personnes concernées. Le rêve m'a permis de déjà parler librement de tout ce que je ressentais. Alors, rêve, c'est réseau d'entente de voix. Sans me sentir jugé, sans dire on va m'interner, donc être moi, être totalement en accord avec moi-même, ne plus me cacher et pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ressentaient ça. Le souci, c'est qu'en psychiatrie, on croit vraiment qu'on est seul, parce qu'aucun psychiatre, aucun soignant ne nous dit « Tiens, mais il y a telle association pour vous ». Donc, on n'est pas au courant, et je pense que les professionnels devraient être au courant de tout ce qui existe à côté pour pouvoir proposer. Autre personne. C'est précisément d'accepter de perdre une part de son autonomie dans les réseaux de solidarité, donc dans un certain altruisme. Sans cet altruisme, cette autonomie, vous ne pouvez pas la garantir, sauf si vous êtes quelqu'un de privilégié, parce que nous sommes des animaux sociaux. Nous dépendons, pour notre autonomie, pour notre construction individuelle, des réseaux de solidarité et de cette construction par rapport à l'autre que l'on peut, par rapport aux autres, que l'on peut développer en solidarité avec d'autres personnes. Parce que le propre des personnes qui sont psychiatrisées, c'est d'être en immense solitude. Il y a une stigmatisation très forte. Donc pour moi, l'autonomie des personnes suivies en psychiatrie me semble passer précisément par l'établissement de réseaux de solidarité et qui permettent de consolider et de conforter l'identité personnelle de ce qu'on est soi-même. Voilà, encore un autre témoignage d'une personne concernée. Voilà, je vais vous dire un troisième, le dernier, qui est assez long. Je citerai, toujours depuis mes expériences personnelles de rétablissement, les espaces de partage d'expériences et de confrontation entre pères malades en rétablissement, qui sont donc autant de moments d'identification, de découverte et d'expériences à se réapproprier, de mise en lumière pas toujours confortable mais nécessaire pour sortir durablement de la posture victimaire souvent caractéristique, en tout cas Dans mon cas, du malade quand il peine à quitter le déni et qui empêche de s'engager dans une nouvelle vie et une reconstruction courageuse de soi. Encore faut-il savoir où trouver ces groupes de soutien qui étayent le processus de rétablissement au long cours. Ce peut être le rôle des structures d'accompagnement via les pairs médiateurs, par exemple, de savoir relayer les informations concernant ces groupes, voire de stimuler et entretenir des liens avec ces groupes d'entraide, comme s'ils étaient des partenaires et non des objets anecdotiques regardés avec défiance ou condescendance. D'ailleurs, une autre suggestion qui me semble importante serait de soutenir, sans les asservir, les initiatives des groupes d'entraide bénévoles et actions d'associations dites néphalistes, déjà bien actifs dans les champs des addictions et de l'alcool comme Vie Libre, Alcooliques Anonymes, mais aussi tous les groupes anonymes qui en découlent, Al-Anon, Maranon, Dépendants Affectifs Anonymes, Narcotiques Anonymes, Joueurs Anonymes, Sex Addicts Anonymes, Workaholic Anonymous, etc. Mais aussi dans d'autres champs comme l'entente de voix, réseau rêve en développement mais faible, ces associations d'entraide ont un grand pouvoir de soutien et elles sont le socle de mon propre rétablissement, ma porte d'entrée et la colonne vertébrale de mon mieux-être durable. Elles sont peu coûteuses pour la collectivité et offre un soutien et un espoir inestimable pour les personnes porteuses de fragilité psychique qui font du mieux qu'elles peuvent pour les organiser avec tout le challenge que de telles dynamiques impliquent quand on vient de la confusion et de l'errance psychique désocialisante. L'accessibilité à des locaux gratuits pour que les réunions qui se tiennent de façon hebdomadaire dans les villes et où tout ce qui peut favoriser la diffusion de ces groupes est à soutenir et favoriser grandement. Voilà. Troisième donc témoignage d'une personne concernée par la santé mentale, employer un terme très générique. Et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine.
Voici le programme des animations proposées par la librairie Publico pour ce mois de mars. La librairie Publico, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Ce mois-ci, l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire, le groupe Pierre Bénard de la Fédération Anarchiste et la librairie Publico vous propose un mois de mars résolument féministe. À partir de ce mardi 7 mars et jusqu'à la fin du mois, la librairie Publico vous propose une exposition de portraits de communards d'eau pastel réalisés par la graphiste et illustratrice Isabelle Abiven. Ces portraits constituent une réalisation artistique unique établie à partir d'une documentation iconographique et accompagnée des notes biographiques de Lila Vautel. Donc à partir de mardi et jusqu'à la fin du mois, jeudi 9 mars à 19h30, une animation intitulée « Libération sexuelle ». C'est l'histoire des pensées féministes et queer sur la sexualité, proposée par Cornelia Moser, un livre édité à La Découverte en 2022. La sexualité est une question centrale pour les féministes, comme pour les mouvements LGBTQ, désir, plaisir, maternité, mais aussi violence et consentement. Ce sera le thème donc de rencontre-débat du jeudi 9 mars à 19h30. Le vendredi 10 mars à 18h30, ça sera l'occasion du vernissage de l'exposition Portrait de communard que vous pourrez voir à partir du 7 mars. Le samedi 11 mars à 16h, vous avez rendez-vous avec Fanchon Damers pour un concert intitulé Terre libre, où Fanchon Damers chante Raoul Vaneghem. Elle sera accompagnée par Jacques-Yvan Duchesne. Chaque lieu, arraché à l'emprise des psychopathes qui nous gouvernent, est un havre de joie et de santé. Notre force, c'est l'entraide et la conscience que rien ne vient à bout de la vie. Voilà l'invite à venir écouter Fanchon Damers, qui chante donc Raoul Vaneghem, samedi 11 mars à 16h. Le samedi 16 mars à 19h30, Guns N' Roses, les objets de lutte féministe. C'est un ouvrage de Mathilde Larère, publié aux éditions du Détour en 2022. Des objets convoités, détruits ou brandis pour tous les combats. Égalité, droit de vote, libre disposition de son corps contre les violences ou dans les luttes de travailleuses ou de ménagères. Jeudi 19 mars à 19h30, donc le livre Guns N' Roses, les objets de la lutte féministe. Le mardi 18 mars à 16h, ce sera un concert. Yann Alexander chante Catherine Ribeiro. Yann interprète à sa manière les chansons de Catherine Ribeiro, surnommée la Passionaria Rouge des années 70. On y retrouvera quelques pépites du patrimoine francophone, Paix, Soleil, L'enfant du soleil couchant ou encore Jusqu'à ce que la force de t'aimer me manque. Ce sera donc Yann Alexander qui chante Catherine Ribeiro le samedi 18 mars à 16h. Vendredi 24 mars à 19h30, on vous propose un recueil de poèmes et de dessins qui est intitulé Entre Vernon et Mante, et c'est un travail de Marie-Claire Calmu publié aux éditions Edinter en 2023. Entre Vernon et Mante, entre fleuve et colline, la rêverie et la contemplation nourrissent l'imaginaire. Et à travers la mélancolie, un certain humour, la joie d'être comme les animaux et les arbres, pleinement vivante. Ce sera donc un ouvrage de poésie de Marie-Claire Calmu, Vernon et Mante, vendredi 24 mars à 19h30. Le lendemain, samedi 25 mars, de 18h à 22h, Girls in Noise, un DJ set libertaire et féministe du collectif MQM. Rebelles du rock, antisexistes, militantes punk, rap et Riot Girls, les féministes de tous les continents joueront sur les platines. Des Riot Girls à Oumu Sangaré, elles changent le monde en musique. Ce sera donc pour conclure ce très riche mois de mars féministe à la librairie Publico, le samedi 25 mars, de 18h à 22h, Girls in Noise. Je vous rappelle que la librairie Publico se trouve 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Et en dehors de ces animations, la librairie est ouverte du mardi au vendredi et le dimanche de 13h à 19h30 et le samedi de 10h à 19h30. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la librairie Publico, librairie-publico.info.